dossier.
Ah, moins qu'on peut dire, c'est que l'Iran est passé de la parole aux actes, puisqu'on apprend dans les dernières secondes que l'Iran a entamé une opération visant des bases américaines au Qatar en riposte à la frappe de samedi soir visant trois sites nucléaires. Donc, c'est ce que rapporte actuellement CNN. CNN cite la télévision d'État iranienne. Où est-ce qu'on en est rendu avec toute cette belle histoire? C'est David Chabot qui va nous démêler tout ça. Salut, David!
Salut, ça va?
Hey, l'Iran qui décide de riposter sur les bases américaines au Qatar, je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'on allait plus augmenter la menace autour du fameux canal que tu nous avais parlé la semaine passée.
Ouais, le détroit d'Hormuz, mais c'est pas nouveau que l'Iran agisse comme ça, parce que rappelons-nous, là, dans le premier mandat de Trump, là, il y avait eu, j'aurais dû le sortir avant de te parler, là, mais un général avait été assassiné là, par des frappes spéciales, puis... dans le fond, l'Iran avait attaqué certaines bases américaines en Irak de mémoire. Là. Donc, c'est leur style. Finalement, il faut qu'il y ait une riposte, il faut qu'ils sauvent un peu la face. Mais je m'attends pas à des gros dommages. Là. C'est des bases aériennes où il y a beaucoup d'avions d'habitude, mais ils ont aussi beaucoup de batteries anti-aériennes puis des protections contre les missiles. Donc, je m'attends pas à quelque chose de significatif. Mais tu sais, dans le fond, il y a trois volets dans la réponse iranienne. Ça, c'est une plus visible, mettons, mais un peu moins efficace, puis aussi le détroit d'Hormuz, puis le terrorisme là, qu'on pourrait se parler aussi. Là.
Ce serait Qassem Soleimani?
Oui, c'est ça, exactement. C'était fait striker avec missile Hellfire, si je me souviens bien. C'était un gars des gardiens de la Révolution, là, en tout cas. Puis il avait passé au cash à ce moment-là, puis l'Iran avait comme demandé quasiment là, publiquement d'avoir le droit de répliquer pour pouvoir sauver la face, puis après ça, on était passé à d'autres choses de notre vie. Là.
OK, puis t'as-tu l'impression que ça pourrait être ça aussi?
Ben, en ce moment, l'Iran veut frapper les États-Unis pour justement démontrer qu'ils répondent, mais tu sais, c'est pas ça la vraie menace en Iran. En ce moment, c'est vraiment Israël, parce que comme la clip que t'as sortie avant l'entrevue l'a dit, Israël, eux autres, ils ont pas fini de faire le ménage. Tu sais, Benjamin Netanyahou, là, il répète tout le temps qu'il a le mandat de se rendre jusqu'au bout, là, de « get the job done ». Fait que là, lui, il arrêtera pas avant un bon moment, mais les États-Unis, je pense qu'ils ont été tirés par la manche pour utiliser la fameuse bombe GBU-57 qu'on a parlé la semaine passée, donc le « bunker buster ». Puis on ne sait pas vraiment encore si le site de Ferdo a été détruit complètement ou pas. Il a été frappé, ça, clairement, mais le bunker était très, 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 très profond. Fait que même avec cette bombe-là, je ne sais pas s'ils se sont rendus jusque-là.
Selon Trump, c'est une mission qui est réussie du côté iranien. Ce qu'on mentionne de leur bord, c'est qu'il n'y a rien qui a été détruit. Qu'est-ce qui est vrai? J'imagine que la vérité est entre les deux, là. Mais n'en demeure pas moins que c'est très particulier. Pour ce qui est du détroit d'Hormuz, tu nous en parlais la semaine dernière. De par ce détroit-là, il y a du pétrole qui s'en va directement vers la Chine. Et là, le secrétaire d'État américain qui a demandé aux Chinois d'intervenir, c'est un peu particulier comme histoire, là, parce que les Chinois sont les alliés des Iraniens.
Ouais, ben en fait, tu sais, la Chine, ils sont quand même habiles, là, parce qu'ils essaient de pas trop démontrer d'alliance, mais en même temps, ils font des affaires avec ceux qui aiment bien. Là, fait que l'Iran fait partie de cet axe-là. Ils appellent ça l'axe de la résistance, là, de façon informelle, avec la Russie puis l'Iran. Donc là, 90% des exportations de pétrole de l'Iran se ramassent en Chine. Donc là, c'est quand même plusieurs millions de barils par année là, qui transitent à travers le détroit pour se rendre là, qui originent de l'Iran. Mais pour ce qui est de l'Europe et le reste de l'Asie, beaucoup de production qui vient des autres pays limitrophes du détroit, donc les Émirats arabes, le Koweït, l'Arabie saoudite, ça passe par là aussi. Donc ça, c'est le deuxième levier là, que l'Iran peut utiliser pour essayer d'être tannant, là, c'est d'essayer de fermer ce canal-là. Mais ils vont le dire, mais ils le feront pas parce qu'ils ont vraiment pas la force militaire pour pouvoir faire ça. Ils vont se faire ramasser en 32 secondes. Là.
Incroyable. Puis pendant ce temps-là, Poutine n'interviendra pas dans ce conflit-là. Il n'y a pas avantage à intervenir là-dedans. Là.
Ben en fait, oui, là, dans le sens qu'il y a zéro la capacité militaire de le faire en ce moment. Il y en a plein les bottines là, avec l'Ukraine, on en a parlé amplement. Par contre, il aime ça jouer le rôle de grand diplomate puis essayer de placer la Russie comme un incontournable sur la scène internationale. Donc là, dans ce cas-ci, il a déjà donné des signaux comme quoi il veut jouer l'espèce d'ambassadeur ou de grand négociateur pour amener tout le monde à la table de négociation. Mais ça non plus, j'y crois pas vraiment parce que avant qu'Israël puis la Russie puis les États-Unis s'assoient autour de la même table pour négocier avec l'Iran, là, je pense que la température va être différente un peu, là.
OK. Puis pour protéger le détroit d'Hormuz, est-ce que les Américains sont déjà sur place?
Oui, ils ont envoyé ils appellent ça des Carrier Strike Group, là, en bon français. Donc, tu sais, c'est un groupe de frappe entouré, là. En fait, c'est un porte-avions qui est entouré de plusieurs navires, puis ça, juste un de ces groupes-là, là, tu sais, c'est un porte-avions, c'est plusieurs destroyers, il y a des sous-marins autour de ça, il y a plein d'avions. Fait que, tu sais, c'est extrêmement puissant. Puis, tu sais, à fond, un groupe de porte-avions comme ça est plus puissant que beaucoup de pays au complet dans le monde, là. Donc, c'est quand même pas négligeable. Les États-Unis ont 11 porte-avions organisés en groupe comme ça, puis ont envoyé les Nimitz dans le secteur au Moyen-Orient, là, puis ils passent souvent par là. Donc ça, c'est pas exagéré comme riposte. Par contre, là, il est positionné stratégiquement pour que si jamais l'Iran décide d'envoyer des bateaux dans le détroit pour le fermer, mais ils ont toute la force aérienne nécessaire pour tout détruire ça. Puis l'Iran, il pourrait pas revenir de ça. Ils ont tellement rien en termes de Navy que ça gérerait qu'ils essaient puis qu'ils se fassent détruire puis ils n'ont plus rien à les mains. Donc, il va falloir qu'ils y aillent avec beaucoup de modération dans ce dossier-là.
Est-ce que ça va passer par un changement de gouvernement en Iran? Parce que depuis 1979, le gouvernement qui est en place, les barbus un peu louches là, avec leur linge, représentent pas nécessairement l'entièreté des citoyens de l'Iran, là, qui est un pays où il y a énormément de gens qui sont très, très, très éduqués. Ça pourrait-tu passer par un changement de gouvernement?
Ben, d'un œil extérieur, c'est sûr qu'on se dit, ben, ça serait peut-être mieux que d'avoir un gouvernement un peu plus démocratique que théologique, là, très, très orienté autour de la religion. Mais tu sais, pour faire ce changement de gouvernement-là, ça va prendre une des deux options. Puis les deux, c'est pas des options très, très faciles à faire. La première, c'est que un pays, on va dire les États-Unis, envahit, déstabilise le gouvernement, puis en place un nouveau, comme ils ont fait en Irak et en Afghanistan. Puis ils ont beaucoup appris de cette expérience-là, puis je pense pas que ça va réarriver de sitôt qu'ils jouent au nation building, en bon français. L'autre option, c'est que le peuple se soulève puis qu'eux demandent un changement de gouvernement. Puis ça, ben, il n'y a pas d'indication claire que ça s'en va vers ça.
Ben, c'est parce que les femmes en Iran, il y a énormément de femmes en Iran qui ont abandonné le voile, là, en signe de dépit au gouvernement qui est en place. Moi, je trouve que c'est une très belle chose là, que les femmes décident d'abandonner le voile pour envoyer un signal en haut. Mais j'ai pas l'impression que la volonté du peuple est tant là, à moins que les Américains les foutent carrément dans la merde en détruisant tout, là.
Ben c'est difficile quand même de faire une révolution, hein. On en a vu au Moyen-Orient, là, le fameux printemps arabe, qu'on se dit, ah, ils ont juste à claquer des doigts puis ça lève, mais c'est un pays de 92 millions de personnes, ce qui veut dire que oui, il y a beaucoup de potentiels révoltants, si on veut, mais il y a aussi beaucoup d'armées puis les gardiens de la révolution puis tout ça. Donc en ce moment, je pense que le gouvernement laissait un peu aller du lest avec les mœurs, comme justement le voile pour les femmes, pour essayer de garder une paix sociale. Là, maintenant qu'ils se font attaquer, est-ce que le peuple va saisir ça pour renverser le gouvernement? Ben, il n'y a pas assez d'instabilité, à mon sens, pour que ça arrive.
C'est parce que les chefs de guerre ont pour la plupart, tous les hauts dirigeants ont pour la plupart tous été tués. Après ça, les grands scientifiques auraient pour la plupart tous été tués. Il reste pas grand monde de qualité là.
Ben, c'est ça le mot-clé, c'est qualité, parce que du monde, il va toujours en avoir pour prendre des postes comme ça. Puis, tu sais, le régime va garder le régime en place. Donc là, avant que tout ça soit renversé par une autre force, si on veut, tu sais, on va appeler ça une force démocratique ou une force de révolution, faut que cette force-là soit organisée puis structurée. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de révolution populaire, pas organisée, qui a vraiment donné quelque chose dans l'histoire récente. On peut en sortir quelques-unes, là, mais par exemple, en Ukraine, justement, là, avant l'invasion de la Crimée, là, il y avait eu un mouvement à Kiev. Donc, c'est le genre de choses qui peut arriver, mais en ce moment, on n'est vraiment, vraiment pas là en Iran. En ce moment, c'est vraiment le régime qui se fait frapper. Puis c'est d'ailleurs la stratégie, je pense, des États-Unis puis d'Israël, de frapper des cibles militaires ou symboliques, mais de pas s'attaquer à la population pour éviter qu'ils se rallient trop avec le gouvernement en place par peur de pire, si on veut.
Okay. Dans le reportage de France 24, moi, je vous ai fait entendre l'audio, mais moi, j'ai vu le visuel. Là. On montre clairement des photos des fameux sites nucléaires en Iran où, il y a de ça quelques jours, il y a eu beaucoup de déménagements. Il semblerait qu'il y avait des gros camions là, qui sortaient de cette base-là. Est-ce que les Iraniens auraient été assez rapides pour sortir tout le matériel nécessaire dans la base pour pouvoir reproduire ça ailleurs? Parce que, bon, moi, je suis pas un grand connaisseur du nucléaire, je sais pas toi, là, mais déplacer une centrale nucléaire en quelques heures, ça doit pas se faire, là.
Non, je pense pas non plus. Puis comme tu le dis, on est ni toi ni moi spécialiste là-dedans. Par contre, ce qu'on peut savoir, puis ce qui a été filtré, si on veut, par les analystes, là, c'est que la matière fissible, donc ce qui a été enrichi, a été déplacé, parce que ça, je vais vraiment caricaturer, mais tu mets ça dans une boîte en plomb, puis tu l'amènes ailleurs, tu sais. Donc ça, ce qui avait déjà enrichi, ce qu'il y avait en stock, ben ça, va être ailleurs, on saura pas où, puis c'est ça qui est difficile à trouver. Mais ce qui est important, c'est d'arrêter la capacité d'en produire plus. Puis là, c'est ce qui se passe avec les frappes en ce moment. Donc là, l'Iran va avoir ce qu'elle a dans les mains. Puis si le programme actuel est aussi efficace qu'on nous le dit, ben ils n'auront plus la capacité d'en faire d'autres, à moins d'en acheter. Puis ça, c'est compliqué, là, parce que c'est un marché assez fermé. Donc là, ils vont avoir la capacité de faire des bombes sales. Ils n'ont pas assez d'uranium enrichi à assez haut niveau pour faire des bombes nucléaires conventionnelles, comme on connaît. Donc là, ils sont comme pognés dans un entre-deux où ça les a arrêtés secs, là, honnêtement. Fait que ça va être efficace pour ça, là.
Depuis 1989, donc 36 ans et 19 jours précisément, il y a un guide qui a pris place. C'est le guide de la Révolution qui est chef de l'État. Son nom, c'est Ali Khamenei. On sait où les Américains le suivent à la trace. Pourquoi on ne lui retire pas le droit de vivre?
Oui, le permis de respirer, mettons.
Oui, c'est ça.
Ben, tu sais, c'est parce qu'un gars comme ça, là, c'est un peu comme Hitler à la fin. Là, je fais pas du point Godwin, là, je fais pas comparer les deux, mais c'est un symbole, OK? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés étaient, il y aimait mieux que Hitler respire que non. Parce que ça devenait une espèce de mauvais dirigeant qui amène le pays à mauvaise place, mais que s'il meurt, là, il devient un symbole puis un martyr, puis là, ça va générer encore plus de sympathie. Puis je pense que c'est un petit peu la même chose en Iran. Le grand Ayatollah, le grand leader, ben en ce moment, tu sais, il a un certain capital de sympathie, mais c'est pas non plus un leader incontournable, dans le sens que, comme on en a parlé tantôt, il y a un début de résistance. Mais si on le tue, là, il devient un martyr. Puis là, ça va se rallier autour de la religion, parce que, tu sais, c'est l'équivalent d'un pape pour le pays, quand même. Tu sais, je caricature un petit peu ça aussi, mais c'est presque un pape pour eux. Donc là, si on le tue, mais là, on tue un symbole religieux, puis là, on tombe dans un autre registre complètement. Là, on sort de la politique, puis on s'en va vers la religion, puis là, ça devient très émotif. Donc, faut éviter de le tuer puis de le virer en martyr, dans le fond. Puis je pense que c'est pour ça qu'il respire encore, là.
Dernière question plate. Il y a sûrement des agents dormants qui pourraient être mis en fonction dans les prochaines heures. As-tu l'impression que les États-Unis pourraient être attaqués en sol états-unien?
Absolument. Sincèrement, c'est mon pronostic un peu, on va dire, audacieux, là. Tu sais, dans le fond, il y a deux façons de faire du terrorisme, là. C'est soit des groupes qui sont reconnus, donc le Hezbollah, puis Al-Qaïda, puis bon, on les connaît, là, la ribambelle d'Alphabet, là. On les connaît tous. Donc, eux autres, il y a la capacité des armées de les financer, puis c'est des structures déjà organisées. Puis il y a ce qu'on appelle des loups solitaires, là, des lone wolves. Donc ça, c'est des cellules dormantes qui peuvent être 1, 2, 3 personnes. Ils ont pas de lien avec des groupes organisés. Puis eux, dans le fond, le mandat qu'ils ont, c'est de vivre comme n'importe qui d'autre dans une société jusqu'au jour où ils reçoivent l'appel avec le code qui dit « ben active-toi », puis là, ils vont faire un attentat. Donc ça, je pense que ça va arriver aux États-Unis, puis c'est très difficile de contrôler ça parce que sont difficiles à repérer. Les États-Unis ont un système de surveillance extrêmement extensif, là, au point d'en être quasiment dangereux pour les libertés individuelles. Mais il en pogne beaucoup à chaque semaine qu'on n'entend pas parler. Sauf que des gars comme ça ou des filles comme ça qui sont juste dormants puis qui attendent juste le bon appel, ça, c'est impossible ou presque à détecter d'avance. Donc là, c'est le chemin des armes puis tout ça. Puis là, ben, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, moi, je m'attends à ce que dans les prochaines semaines, il y ait certaines choses aux États-Unis. Revendiquées ou pas, mais en tout cas, ça va brasser pour les prochaines semaines, je pense.
Ça va augmenter les suspicions puis les regards un peu douteux sur d'autres personnes qui ont une couleur peut-être un peu plus foncée. Mais juste pour vous mentionner que c'est pas des Arabes, hein, en passant, les gens de l'Iran, c'est des Perses. Donc, oui. Lâcher les Arabes, là, pour un bout, c'est vraiment l'ancien empire perse qui fait partie de l'Iran. David, c'est toujours un plaisir, cher ami, puis j'invite les auditeurs à aller sur ta page Facebook, David Chabot. Tu mets des résumés extrêmement clairs, qui sont beaucoup trop longs pour moi, là, mais tu mets des résumés très, très clairs, puis les gens l'apprécient beaucoup.
Ben, t'es bien smart, puis pour toi, regarde, je vais faire des posts avec des images. Je vais dessiner au crayon de cire, fait que ça va être plus accessible.
C'est très gentil. Merci, David.
Ben, merci.
Salut, David Chabot, mon chroniqueur international. Il est-tu fort, lui?
Oui, il est fort.
Il connaît des affaires.
Il connaît.
On l'aime, on y parle à chaque semaine. 13h20, on fait une courte pause. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021.